Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ce dimanche 9 juin, dimanche matin 9 juin, dimanche de la Pentecôte. Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu de culte où ensemble nous voulons célébrer l'éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui s'est révélé par son Fils Jésus le Christ. Dites-moi, par quel chemin êtes-vous ici? Par quel chemin êtes-vous ici? Vous avez pris... Avenue Vaudagne, vous avez pris Avenue Vaudagne, vous? Vous avez pris... Vous avez tous pris l'avenue Vaudagne? Mais moi, pas. Hein. Moi, j'ai pris l'autoroute. Ça va, bonne. Voilà, et puis après, on est tourné, là, chemin de la Tour, Virginio Malnati, le Bournou, le chemin, d'accord, on s'est retrouvé là derrière. Voilà, ça c'est notre géographie physique. Mais par quelle géographie spirituelle, par quelle géographie du cœur avez-vous découvert Jésus-Christ? Par quel chemin la bonne nouvelle vous est-elle arrivée? Qui vous a parlé au bon moment de Jésus-Christ? Est-ce que vous vous souvenez de cette personne? Ou de ces deux, trois personnes? Parce que des fois, la foi, ça se construit au fil des années. Est-ce que vous vous souvenez de ces personnes? Elles vous ont rendu tout d'un coup l'évangile compréhensible. Peut-être c'était une parole. Peut-être c'était un geste, une attitude. Et vous vous êtes dit, ah, ok, là, ça vaut le coup. Je place ma confiance dans ce Jésus. Je le veux comme sauveur. Vous vous souvenez de cette personne ou de ces personnes que je viens d'évoquer et qui sont des personnes clés de votre histoire? Cherchez un peu dans votre mémoire. Essayez de les nommer. Je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un moment et de se souvenir de ces gens qui ont été déterminants à un moment de notre vie. Et je vous propose de prendre 30 secondes. Voilà, c'est parti. Souvenez-vous. Merci. Oui. Voilà, 30 secondes sont écoulées. Je suis sûr que vous avez, comme il a été dit, des personnes qui vous sont venues à l'esprit. Pour moi, j'en vois trois. Mes parents, mon ancien pasteur, ici présent, et Roland, qui était l'animateur du GBE. Ben, ça fait quatre. Il était prof de physique, il faut dire. Donc, les chiffres, vous savez. Voilà. Ces personnes, en fait... Elles ont pu me faire comprendre à ce moment-là, dans une espèce d'aujourd'hui, elles ont pu me faire comprendre en français l'essence d'un message délivré en araméen il y a 2000 ans, en Israël, à 2800, 3000 kilomètres d'ici, dans une culture totalement différente de celle où je vivais. Elles ont rendu proche ce qui paraissait lointain. Et ça, c'est un vrai miracle. Alors comment est-ce que c'est possible, ce miracle? En fait, on trouve le passage dans Acte 2 qui raconte ce qui s'est passé. C'est le récit de la Pentecôte, acte 2, verset 1, du verset 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer dans notre propre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous vivons en Mésopotamie, en Judée, en Cappadoce. Nous habitons le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou la Libye, près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » C'est la première partie du récit de la Pentecôte. Alors Pierre se leva, et je vous invite à vous lever en imitant Pierre, je vous invite à vous lever vous aussi. Et Pierre dit, écoutez bien, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, ce Jésus a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise.
racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de
Il a été crucifié par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif.
Pour mourir sur l'enfer.
Hommes, frères, dit Pierre, et nous dirons frères et sœurs, Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Voici ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié.
Soleil radieux, les êtres gris.
Alors, changez de comportement et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, pour tous ceux que le Seigneur Dieu fera venir à lui.
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
vous invite à reprendre place. Nous prions. Nous l'avons entendu, Seigneur, la promesse de ta présence est pour nous et pour nos enfants. Aussi, c'est avec confiance que nous te prions maintenant de nous rendre attentifs et sensibles à ce que tu veux nous dire, que nous soyons des grands ou des petits, que nous soyons des enfants ou des parents. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors les enfants, maintenant, à votre séance particulière, à votre animation particulière, qui vous a été préparée avec certainement beaucoup d'énergie et de joie, j'espère, par vos moniteurs. Merci, les moniteurs, de votre engagement. Nous écoutons maintenant la lecture dans la lettre à Tite du chapitre 3, les versets 4 à 7. C'est ce texte que méditera Philippe. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance.
Bonjour à chacun, chacune. Le passage que nous avons lu ce matin concernant la Pentecôte, acte 2, ce passage est à la fois exaltant et troublant. C'est exaltant parce que nous avons dans ce passage la preuve grand public que Jésus, ce criminel crucifié, est en réalité le Christ, le Messie, le Seigneur. Nous avons la preuve qu'il est ressuscité, que sa mission est accomplie, qu'il est au ciel et que du ciel, il règne en majesté. La preuve, eh bien la preuve, ce sont les flammes, c'est le bruit du vent. C'est le message donné en 36 langues différentes. C'est la puissance qui remplit les apôtres. C'est la conversion immédiate de 3000 personnes. C'est la naissance de l'Église. Joyeux anniversaire, l'Église. Ces milliers de gens venus de partout, si divers, si différents, et pourtant soudés ensemble par le baptême de l'Esprit-Saint, que Jésus, en majesté, envoie conformément à sa promesse. La preuve, c'est le début d'une histoire qui n'a pas fini d'être écrite. C'est celle de l'annonce de l'Évangile à tous les peuples, dans le monde entier, à toutes les générations, à toutes les cultures, sans distinction. C'est l'acte final de la séquence de la croix. C'est le lever de rideau sur les derniers temps. C'est absolument exaltant, exaltant. Et en même temps, c'est troublant. C'est troublant. Parce que je sache, aucun de nous dans cette salle n'a vécu quelque chose de semblable. On nous parle à raison du Saint-Esprit. Nous devons parler du Saint-Esprit. Mais où sont les flammes de feu? Où est le bruit de la tempête? Où sont ces 36 langues que la foule comprend? Et où sont les apôtres, ces hommes qui ont connu Jésus, qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont reçu leur autorité directement de Jésus en personne? Où sont les apôtres et où sont les 3000 convertis d'un coup? Où sont-ils? C'est troublant. Parce que nous en sommes loin, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais vu ni même entendu parler de choses semblables de nos jours. Je sais qu'avec une bonne publicité, qu'avec une bonne organisation, on peut réunir des foules. Je sais qu'il peut y avoir des centaines de conversions quand une population donnée, à un moment donné, est réceptive à l'Évangile. Certains de mes amis, parmi les plus précieux, parlent en langue. Mais ces langues, contrairement à Acte 2, sont incompréhensibles. Elles ne touchent pas des foules. Et puis, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de feu. Nulle part, vous ne trouverez une réédition du jour de la Pentecôte. Et c'est normal, parce que l'ascension du Christ, le don de l'Esprit, la naissance de l'Église, ce sont des événements uniques. Uniques. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On retourne chez nous? Qu'est-ce qu'il en reste pour moi en 2019 de la Pentecôte? Qu'est-ce qu'il en reste? Esprit, es-tu là? Es-tu là? C'est le thème de notre méditation de ce matin. Quand Jésus parle avec Nicodème de l'action du Saint-Esprit, justement, avant que l'Esprit ne soit donné. Quand Jésus parle avec Nicodème de l'action du Saint-Esprit, il va justement souligner le côté mystérieux de l'action du Saint-Esprit. Il lui dit à Nicodème, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. L'action de l'Esprit, c'est quelque chose de mystérieux. Tout n'est pas visible, tout n'est pas quantifiable, tout n'est pas mesurable. Il n'y a pas de grille de lecture de l'action de l'Esprit. Mais la venue de l'Esprit signifie clairement la possibilité de naître de nouveau, d'entrer dans le royaume de Dieu, d'avoir la vie éternelle et bien plus de choses encore. Mais personne ne le voit. Personne ne voit le vent, dit le Seigneur Jésus. Nous voyons les feuilles qui bougent, nous voyons bien les papiers qui s'envolent, nous voyons les arbres qui plient, qui ploient et qui parfois cassent. Nous entendons bien les volets et les portes qui claquent, mais nous ne le voyons pas. Il en est ainsi, dit Jésus, de l'action du Saint-Esprit. L'action de l'Esprit a une part mystérieuse et nous devons garder ça. Maintenant, quels peuvent être alors les signes de sa présence et de son action dans ma vie ? Quels peuvent être les signes de sa présence et de son action dans ma vie ? Autrement dit, c'est du pipeau ou il y a vraiment l'action du Saint-Esprit ? Esprit, es-tu là ? Il me semble que quand on regarde la Bible attentivement, on découvre plusieurs signes de l'action et de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Le premier de ces signes, c'est notre relation avec Dieu. C'est l'Esprit qui nous permet d'appeler Dieu, non pas Dieu, mais notre Père. Notre Père. C'est l'apôtre Paul qui le dit en Romains 8, 15 à 16. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptifs, adoptives de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Les signes et l'action de l'Esprit dans notre vie, pour commencer, c'est que vous et moi, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Pas un Dieu fâché, pas un Dieu éloigné, pas un Père fouettard. Dieu notre Père. Et comment sommes-nous devenus enfants de Dieu ? Eh bien, par la nouvelle naissance, qui est appelée aussi la naissance d'en haut ou la naissance de l'Esprit. Et quand est-ce que la nouvelle naissance se produit ? Eh bien, elle se produit quand on accueille Jésus-Christ, quand nous plaçons notre foi en lui. C'est à ce moment-là que la nouvelle naissance se produit et que nous recevons l'Esprit qui nous permet d'appeler Dieu Père. L'apôtre Jean le dit ainsi. Jean 1, 12 à 13. Certains l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, à toutes celles-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est l'Esprit qui nous révèle Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui nous fait naître de nouveau. C'est l'Esprit qui nous fait entrer les uns et les autres dans la famille du Père. Si donc vous avez vécu ces choses-là, vous pouvez être sûr, absolument sûr, que l'Esprit vous a touché. Que vous avez reçu l'Esprit. Il y a zéro doute là-dessus. Aucun. Si vous pouvez appeler Dieu Père, c'est que le Saint-Esprit vous a touché. Mais ce n'est pas tout. Parce que si nous aimons le Père, nous aimons aussi ceux qui sont nés de lui comme nous. Parce que l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Et particulièrement, l'amour pour le peuple de Dieu, c'est l'un des signes que nous appartenons à Dieu et que l'Esprit est en nous. Le baptême de l'Esprit, qui est une autre façon de parler de la nouvelle naissance, ce baptême de l'Esprit nous lie les uns aux autres. Nous lie les uns aux autres. Vous connaissez l'église de Corinthe ? Dans cette église, comme dans d'autres églises d'alors et depuis, hélas, les gens se querellaient. Et à Corinthe, ils avaient obtenu un master S-querelle. Ils se querellaient pour tout. Et en particulier, ils se querellaient au sujet du Saint-Esprit. C'est ce qui peut arriver dans les églises évangéliques. Et l'apôtre leur dit ceci. Nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non-juifs, que nous soyons esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous été abreuvés. 1 Corinthiens 12, verset 13. Tous unis dans un même corps par un même esprit. Tu doutes de ton salut ? Tu doutes avoir reçu l'Esprit ? Pose-toi la question. Quel est ton rapport à l'Église ? Est-ce que l'Église, c'est le signe de ton appartenance à Dieu parce que comme tu aimes Dieu, tu aimes tes frères et sœurs ? Ou est-ce que l'Église, c'est le signe de ton désintérêt pour Dieu ? Le Saint-Esprit est celui qui établit ta relation avec Dieu et qui la garantit par Jésus. Mais il est aussi celui qui établit ta relation avec tes frères et tes sœurs dans la magnifique diversité qui définit l'Église de Mérin. Et il y a plus encore. L'Esprit, il te change. L'Esprit, il te change. Connaissez le slogan de McDonald's, hein ? Venez comme vous êtes. Welcome, bienvenue. Venez comme vous êtes. Il y a quelque chose de ça dans l'Évangile. Venez comme vous êtes. Mais vous ne resterez pas comme vous êtes. Parce que l'Esprit vous change. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. La transformation, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit, dit le texte. Nous sommes transformés. Et la Bible nous parle du fruit de l'Esprit, et je trouve que l'image est tellement belle, le fruit de l'Esprit. Jésus a dit que nous connaîtrons un arbre à son fruit. Tel arbre, tel fruit. Je ne suis pas le mieux passé dans la salle pour vous parler d'arbres. J'aimerais bien qu'on fasse une fois un culte dans le verger à Versoix. Tel arbre, tel fruit. Des cerises, des pommes, des poires, des abricots, des noisettes, des noix. Mais quand l'Esprit est dans ta vie, quand l'Esprit est dans ta vie, tu vois les fruits de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu ne verras pas tout, pas tout de suite, pas tout à la perfection, pas encore. Mais au milieu de tes luttes, au milieu de tes échecs, au milieu de tes tentatives sans cesse répétées, tu verras des transformations, parce que l'Esprit, il te transforme. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit Saint, parce que ce qu'il veut, c'est notre sainteté. Alors il aiguise notre conscience, il fait que nous ne tolérons plus aujourd'hui ce que nous tolérions hier. Il nous rappelle que nous devons encore progresser. Il nous pousse à la repentance. Et quand tu es effondré, quand tu es effondré à cause d'un péché grave dans ta vie, il te rappelle que tu es enfant de Dieu et que le meilleur reste à venir. Alléluia. Je pourrais rajouter tellement de choses. La diversité des dons pour servir Dieu, l'inspiration des Écritures, le témoignage à rendre dans le monde. Mais il me semble que l'essentiel est déjà là. Le Saint-Esprit est celui qui établit ta relation avec Dieu et qui la garantit. Il est celui qui établit ta relation avec tes frères et sœurs et il te transforme. Et je trouve ça déjà pas mal. Maintenant, avant de conclure, qu'est-ce que je peux faire si les signes de l'action de l'Esprit sont apparemment absents de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire si ce matin j'ai l'impression que l'Esprit et moi, ce n'est pas trop une histoire d'amour, on est plutôt en chien et chat, pas sûr qu'il soit vraiment là? Il me semble qu'il faut d'abord poser un bon diagnostic, comme le médecin ou le mécanicien auto. C'est la batterie ou les bougies? Il y a des saletés dans le carburant? Si vous ne posez pas le bon diagnostic, vous ne ferez pas la bonne réparation. Si les signes de l'action de l'Esprit sont absents de ma vie, je vois 4 explications possibles. Et dans les 4 pistes que j'aimerais vous laisser, à un moment donné ou l'autre de ma vie, je m'y suis retrouvé, voire je m'y retrouve. Mon premier cas de figure, il est particulier. Peut-être que je ne vois pas les signes de l'action de l'Esprit dans ma vie parce que je regarde mal. J'ai peut-être des attentes irréalistes, des attentes pas très bibliques, pas très raisonnables. Par exemple, je voudrais vaincre ma timidité pour témoigner comme les apôtres. Je pourrais aller en Corée du Nord amener des Bibles. Et j'arrive pas à vaincre ma timidité. Et puis je vois pas que Dieu m'a donné un amour pour sa parole. Je ne vois pas que j'ai du plaisir à me retrouver avec mes frères et sœurs. Je ne vois pas que je fais du bien parce que je sais dire une parole qui fait du bien. Je sais être là quand il faut. Je ne vois pas que je me préoccupe désormais de plaire à Dieu plutôt que de suivre bêtement mon propre chemin. Alors je pense que j'ai un problème, mais mon problème, il n'est pas là où je pense. Il est dans mon impatience, il est dans mes attentes exagérées, il est dans mes exigences déplacées. Je ne le vois pas parce que je regarde mal. Je prends un deuxième cas de figure qui peut être très difficile à vivre. Il arrive que des chrétiens, des chrétiennes très sincères, très scrupuleux, passent par des temps de dépression, par des temps de profond découragement qui les font douter de tout. Ils peuvent vous dire qu'ils ne sont pas vraiment convertis. Ils peuvent vous dire qu'ils ont probablement péché contre le Saint-Esprit. Ils peuvent vous dire que rien n'a vraiment changé dans leur vie. Ils peuvent vous dire qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu ou qu'ils n'en ont plus. Comme si tout ce qu'ils avaient vécu avant avec Dieu ne comptait pas. Comme si toutes les couleurs de la vie étaient devenues simplement des niveaux de gris différents. Non seulement pour la vie chrétienne, mais pour tout. Ce problème-là, quand il se pose, il est à la frontière entre la spiritualité et la médecine. Si jamais tu te reconnais dans ce tableau, discute-en avec ton pasteur, ou avec ton médecin, ou avec les deux. Tu as peut-être besoin de ce que la science peut offrir de meilleur. Tu as peut-être simplement besoin du soutien d'un frère, d'une sœur juste à tes côtés, dans les bras desquels tu pourras pleurer. L'un comme l'autre peuvent être des dons de Dieu pour toi. Un troisième cas de figure. Tu es chrétien, mais la voix de l'Esprit est comme éteinte en toi. Peut-être t'as pas voulu l'écouter. Peut-être tu as délibérément refusé un geste que le Saint-Esprit te demandait. Je ne sais pas, le baptême par exemple, ou un renoncement, ou une demande de pardon, ou une rupture, ou une réconciliation, que sais-je. Tu as négligé les disciplines de base de la vie avec Dieu, la Bible, la prière, l'Église. Tu t'es conformé au monde au lieu de te laisser progressivement transformer par Dieu. Tu as attristé l'esprit, comme dit la Bible, Éphésiens 4, verset 30. Attristé l'esprit. Mon expérience me fait dire, et je suis passé par là souvent, et je pourrais vous en parler des heures, que si ça devait être ton diagnostic, eh bien un demi-cachet d'antidépresseur ne changera rien pour toi, rien. Tu ne t'en sortiras qu'à une seule condition, un retour à Dieu. Un retour en arrière, un demi-tour, un changement de cap. S'il y a une faute précise ou s'il y a une orientation de ta vie qui part de travers, alors il faut marquer l'arrêt, absolument, et faire demi-tour. Je pourrais vous parler de centaines d'occasions dans ma propre vie, y compris cette semaine, où le retour à Dieu était nécessaire pour moi. Bienvenue au club. Et si vous avez besoin d'un retour à Dieu, et si vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne pour ce retour à Dieu, venez me voir. Si vous avez envie qu'une femme vous accompagne, vous êtes une femme, vous avez envie qu'une femme vous accompagne, venez me voir, je vous dirigerai, il y a plein de gens qui peuvent ici vous accompagner. Mais parfois, il faut juste ça, un retour à Dieu. Et Dieu promet le pardon à celles et ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui reprennent leur marche avec lui. Et puis un dernier cas de figure. Le dernier cas de figure, c'est le cas du faux départ ou du départ qui n'en était pas un. On a parlé de Nicodème tout à l'heure. Nicodème, c'est un faux départ. C'était un chef religieux et probablement un de ces chefs religieux parmi les plus ouverts, parmi les plus équilibrés. Mais voilà, d'après Jésus, même si Nicodème était un chef religieux ouvert et équilibré, ben il n'était pas encore rentré dans le royaume de Dieu. Il n'était pas encore né de nouveau, lui dit Jésus. Il n'avait pas encore reçu l'Esprit dans sa vie. Il ne pouvait pas encore appeler Dieu Père. Et un homme comme lui, pieux, respecté, a besoin, comme les autres, même au soir de sa vie, de naître de nouveau. L'Évangile de Jean le dit clairement. Comme l'épître de Paul à Tite, que Michel a lu au début, le dit. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Peut-être, peut-être, que tu ne vois pas les signes de l'action d'esprit dans ta vie, tout simplement parce que ce matin, tu es juste à la frontière du royaume de Dieu, mais pas encore dedans. Ça, Dieu le sait. Toi aussi, probablement. C'est un petit peu comme quand tu passes du nord de la France au sud de l'Angleterre par voie maritime. Tu ne sais pas à quel moment tu quittes les eaux maritimes françaises et tu rentres dans les eaux maritimes anglaises. Mais il y a un moment donné où ça se fait. Le capitaine le sait. Et quand tu passes d'un royaume à l'autre, Dieu le sait. Peut-être que tu as trempé juste un doigt dans l'océan de Dieu, mais que tu ne t'es pas encore jeté à l'eau. Peut-être que tu sympathises, mais tu ne t'engages pas. Peut-être que tu es chrétien à cause de tes ancêtres, de tes parents, de tes grands-parents. Peut-être que tu viens à cause de ta culture et pas parce que tu as toi-même choisi le Christ. La fête de la Pentecôte, c'est un événement fabuleux. C'est l'acte final du drame de la croix. C'est le lever de rideau des derniers temps. C'est exaltant. Nous célébrons ce matin un jour unique dans l'histoire de l'humanité. Mais nous pouvons aussi célébrer ce que le Saint-Esprit fait pour nous concrètement, maintenant. Si nous l'avons négligé, attristé, étouffé, nous pouvons profiter de ce jour pour nous ouvrir à lui dans la repentance. Si nous n'avons pas encore été au bénéfice de son action, nous pouvons nous tourner vers ce Christ que l'Esprit veut nous révéler. Un pas, peut-être, nous sépare de la vie éternelle. Viens, 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 Esprit du Dieu vivant. Amen.
Je vous invite maintenant à un temps de silence pour laisser résonner en nous ce que Philippe vient de nous apporter, ce que le Seigneur vient de nous apporter. Et si vous souhaitez vous exprimer par la prière, ce temps est aussi pour vous.
Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi.
Partager un repas, c'est quelque chose de simple. Pas juste manger, mais partager un repas. C'est simple, mais c'est intime. C'est intime parce que c'est prendre ensemble ce qui nous est nécessaire pour vivre. Sans nourriture, sans boisson, pas de vie possible. Partager un repas, quelque part, c'est exister ensemble. Parce que sans communion, il n'y a pas de vie désirable. Ensemble, nous sommes maintenant invités à la table du Seigneur. Et ici, nous entendons sa voix qui dit « J'ai vivement désiré manger ce repas avec vous ». Ici, il y a de la vraie nourriture, du pain fait de grains de blé, broyé, écrasé entre des meules, et du vin fait de raisins, broyé et pressé. Je lis l'institution dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux Puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang qui garantit l'alliance et qui est versé pour beaucoup d'hommes, pour le pardon de leurs péchés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » En participant à la scène, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes prêts parfois à, broyer, à écraser, si cela nous paraît nécessaire. Nous reconnaissons notre indignité fondamentale à paraître devant Dieu qui est le Seigneur de la vie. En prenant ce repas, nous affirmons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Par sa mort sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père. En prenant le pain et le vin, nous désirons que Jésus-Christ habite concrètement nos vies personnelles et notre vie d'Église, qu'il nous permette de sortir de nos servitudes, de nos enfermements, pour marcher librement à sa suite.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. La coupe que nous partageons est la communion au sang de Christ.
Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous goûtons le privilège que nous avons de prendre ensemble ce geste de communion. Communion avec toi et communion les uns avec les autres. Nous participons à un même pain parce que nous faisons partie d'un même corps. On goûte au privilège d'avoir été rachetés par toi, notre Père, et puis d'être des frères et sœurs unis dans une Église qui t'appartient et que nous avons à cœur. Accepte, Seigneur, l'hommage de nos lèvres, les sentiments de nos cœurs. Nous t'aimons et nous aimons nos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.
On vient de chanter « Je veux tout donner pour moi, pour toi ». J'avais prévu qu'on passait à l'offrande, mais je n'avais pas pris garde, parce que ça pourrait être un peu interprété de manière... Bon, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut tout donner, c'est notre vie. L'argent, d'accord, on participe par notre argent. C'est aussi une manière, de participer, en participant à l'offrande, de faire allégeance à Jésus-Christ plutôt qu'au pouvoir de l'argent. Voilà. Et pendant que se déroule l'offrande, on va avoir les annonces, parce que, en fait, les deux choses sont bien liées, c'est la vie de l'Église.
Alors, bonjour à tous. Alors, pour les annonces, donc, mardi 11 juin, ici à l'IEM, à 19h, apéro dînatoire avec Flavien Negrini, donc un de nos envoyés de l'IEM. Venez nombreux, l'apéro dînatoire se veut de la région où est Flavien, donc Broyer du Poitou et Pinot des Charentes. Et puis à 20h, soirée témoignage. Donc venez entourer notre envoyé. Ensuite, pour la suite de la semaine, jeudi, rencontre du conseil, le caté vendredi, sauf erreur, c'est la dernière session. Voilà. Et puis dimanche, culte de fin de caté. Là aussi, venez nombreux les soutenir, parce qu'ils vont avoir une grande participation, sauf erreur. Ensuite, le vendredi 21 juin, le colloque, ici à 20h15. Ensuite, Mathieu, je te laisse venir.
Merci. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais faire quelques annonces concernant le groupe de jeunes. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, cette église a un groupe de jeunes qui s'appelle CTT, sigle de chrétiens tout-terrain. Et on se réunit tous les mercredis soirs entre 19h30 et 21h, 22h, 23h, ça dépend. Et donc déjà, si vous connaissez des 15-25 ans ou un petit peu plus qui seraient intéressés à participer à ces rencontres ou qui cherchent simplement un groupe de jeunes, ils peuvent s'adresser directement aujourd'hui soit à moi-même, soit à Charline, qui est aussi une responsable. Et avant de faire cette annonce-là, je voulais juste dire que s'il y a des personnes qui aimeraient une fois apporter un message ou qui ont des idées d'orateurs ou de thèmes particulièrement à cœur qui pensent que ce serait bien d'apporter au groupe de jeunes, c'est avec plaisir aussi qu'on reçoit vos propositions. Toutes les années, on fait un camp de ski en collaboration avec un autre groupe de jeunes à Crissier. Aux alentours de Nouvel An, c'est un camp de ski qu'on aime bien refaire à chaque fois pour resserrer les liens entre nous aussi et avoir une semaine très plongée spirituellement, très, très forte. Et donc au-delà du ski, on parle aussi de Dieu un peu quand même. Et pour alléger le prix du camp de ski aux jeunes ou à leurs parents qui payent, on essaie de faire quelques actions par année. Et une action qu'on fait souvent, ce sont justement ces tresses. On se réunit le samedi soir, donc là, ce sera le 22 juin, on se réunit pour confectionner des tresses. Et le lendemain matin, on vous prépare un petit déjeuner auquel vous êtes tous et toutes conviés. J'ai de l'enthousiasme au premier rang. Il y a des panneaux d'affichage dehors pour vous inscrire si vous voulez commander une tresse, parce que c'est possible de commander des tresses qu'on vend après le culte, et pour vous inscrire aussi au petit déjeuner. Donc ce sera le dimanche 23 juin à 8h30. Donc si on a un temps comme celui-ci, ce ne sera pas dehors, mais normalement on aime bien le faire dehors, c'est assez chouette. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Chouette. Oui. Oui, vous pouvez aussi commander des tresses par email directement chez les responsables. Il y a l'adresse email qui est sur le panneau d'affichage là-bas. Merci.
Vous faites aussi livraison à domicile ou bien non? Ok. Mardi 25 juin, la sortie annuelle du fil d'argent. Et puis le mercredi 26 juin, une soirée de clôture au CEPOM. Pour les trois paroisses, donc paroisse catholique, protestante et puis notre église. Et là, c'est sur inscription, donc il y a une feuille dans le foyer. Il faut s'inscrire, c'est des grillades et puis il faut amener soit un dessert, soit une salade. Ensuite, pour cet été, donc il y a les camps de la Ligue, si vous ne savez pas où mettre vos enfants durant l'été. Et pour plus d'informations, je pense que vous pouvez demander à Rebecca. Et puis Kingdom Festival, aussi du 6 au 10 juillet, à Bulle. Encore une petite information, je laisse la parole à Anita.
Bonjour à chacun et à chacune. Je peux vous transmettre les salutations de ma maman. Après une chute à la maison, fracture du bassin et 6 semaines dans une clinique de rééducation, elle a pu rentrer vendredi après-midi. Ça va pas mal. Et je tiens à vous remercier pour vos prières, votre soutien, aussi par des téléphones ou des visites. Et puis pour ma part aussi, pour les prières à mon, pour moi, pour me soutenir, parce que je vis vraiment de la force du Seigneur. Merci beaucoup.
Alors, vous avez participé à l'offrande aujourd'hui. Je vous mets juste un slide là, comme je suis trésorier de l'Église, voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de vous expliquer à quoi sert votre argent, à quoi sert l'argent qui est donné là dans l'Église. Donc, c'est le budget 2019, environ 300 000 francs de budget, hein, qui est réalisé au travers des dons au culte et des dons qui se font sur le CCP. Voilà, vous avez à peu près plus de 60%, presque les deux tiers, ce sont les salaires et les charges sociales et les frais de ministère de nos pasteurs. Ensuite, vous avez deux tranches à peu près similaires qui sont d'une part ce qu'on appelle les soutiens, c'est notre participation à la fédération, à notre fédération d'église, ainsi que d'autres soutiens, librairies bibliques, entre autres. L'autre part presque identique en violet, le 15%, correspond à la charge relative au bâtiment, donc ce bâtiment-ci est la chapelle, hein, l'entretien et l'amortissement des bâtiments. Et les 6% qui sont billes de l'Église, c'est par exemple ce qui a été décidé récemment par le Conseil, le soutien des responsables du groupe de jeunes qui participaient à un camp de formation, ou l'achat de matériel pour l'école du dimanche. Voilà, ce genre de choses, quand il y a un week-end, la participation de l'Église pour abaisser le prix du week-end, voilà, c'est ça, c'est ce 6% en rouge. Voilà, c'était pour vous donner un peu une idée plus précise de comment est géré l'argent. Je vous invite à prier pour cette offrande. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Nous te remercions pour la vie de l'Église permise par l'argent qui est donné. Nous te demandons pour les responsables, pour le conseil, la sagesse dans l'utilisation de cet argent. Amen.
Encore une petite annonce. Donc, la famille Onchaud a enfin trouvé un appartement. Et c'est un immense soulagement. Je pense qu'on peut dire un grand merci à tous ceux qui ont prié pour cet appartement. C'était un long chemin de croix, on peut dire. Donc, on se réjouit de vous voir dans votre nouvel appartement.
Si effectivement nous habiterons à la rue Gilbert, Dieu voulant, à partir du 1er août prochain. Et voilà, on est réjouis et merci beaucoup pour vos prières, vos conseils, votre soutien. Ça a été précieux et ça le sera encore, l'épisode d'un déménagement n'étant pas de tout repos. J'aimerais vous saluer de la part de Claude Becher, qui est en week-end avec Free Time. Free Time, c'est le groupe des jeunes adultes des 4 églises frais de la région genevoise et c'est lui qui anime sur ce week-end sur le thème du sermon sur la montagne. Il m'a recommandé de vous saluer, ces choses faites. La surprise de la Pentecôte était que Dieu ne pouvait pas être contenu, retenu. L'Esprit était pour les aînés, comme pour les jeunes, pour les hommes, comme pour les femmes. Pour tous ceux qui sont bien intégrés dans la société, comme pour tous ceux et celles qui étaient rejetés par la société. pour les autochtones comme pour les étrangers. Dieu ne pouvait pas être contenu. Dieu ne pouvait pas être retenu. Je vous invite à vous lever. Et aujourd'hui, ce matin, notre Dieu ne peut toujours pas être ni contenu, ni retenu. Alors que son souffle, l'esprit, gonfle vos voiles, qu'il mette du vent en votre faveur, et que vous puissiez poursuivre la route, la traversée, assurée des forces de son esprit. Je vous souhaite un très bon dimanche. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.